Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les communautés de Massissi dans la province du Nord Kivu ont développé des projets et activités pour relever les déplacés retournés de guerre. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC les a visités et Bruno Lebarquis a encouragé ce genre d'initiative à se multiplier. Dans la province du Congo central, les autorités coutumières n'apprécient pas la recrudescence d'accidents mortels sur la nationale numéro 1 passant aussi dans leur province. Elles ont demandé 2 heures de fermeture de cette voie demain dimanche pour leur permettre de mener des cérémonies coutumières à certains endroits de la route. Et puis, l'invité de ce journal, c'est Raphaël Mouchanga, coordonnateur national de l'ONGD Congo Action et point focal de l'ONG Congo Bassin Conservation Society, une structure qui vient de doter la province du Maniema d'une stratégie provinciale sur l'agroécologie. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute. Le coordonnateur humanitaire en RDC encourage ceux qui assistent les déplacés à relever les retournés dans leur milieu. Il faut changer la logique de l'assistance humanitaire dans les sites au processus de relèvement des retournés dans leur milieu, a déclaré Bruno Lemarquis. Il a fait ce week-end à Sake, où il a visité des actions et projets mis en œuvre par les communautés avec l'appui des organisations du système des Nations Unies, la coopérative agropastorale Tuungana, entendez, unissons-nous, par exemple, une de ces organisations qui encadre des centaines de femmes et jeunes filles a reçu la visite de Bruno Lemarquis. Cette coopérative exécute un projet d'autonomisation économique et cohésion sociale en faveur des femmes retournées vulnérables. Pour le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, de telles initiatives doivent être dupliquées dans d'autres provinces. On l'écoute au micro de Denise Loukesso.
C'est vraiment encourageant de voir qu'on est sorti d'une logique vraiment d'assistance humanitaire dans les sites. Il faut appuyer ces gens qui rentrent chez eux, surtout ces femmes et ces filles qui ont beaucoup souffert les dernières années. On sait que la situation n'est pas facile, mais au niveau de la population, c'est important toujours d'appuyer la population. Ces citoyens et ces citoyennes congolais qui ont vraiment souffert ces dernières années, leur appuyer au retour dans leur processus de relèvement. Donc ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment encourageant et j'espère que ça pourra se multiplier dans de nombreuses zones du Congo où il y a beaucoup de déplacés et une fois que la situation devient un peu plus normale, les gens peuvent rentrer chez eux et les appuyer dans leurs efforts de se remettre sur pied, ce qu'on appelle la résilience aussi, aider les gens à reprendre un peu d'activité économique pour qu'ils puissent de nouveau toucher un peu de revenus pour permettre à leurs familles, à leurs enfants, etc. de reprendre une vie normale. Donc c'est vraiment important de changer de paradigme, de changer de logique et d'aller vers une logique de relèvement.
Toujours dans cette partie de la RDC, l'ONG Médecins Sans Frontières annonce le retrait progressif de son projet d'urgence au centre de santé de Chacha d'ici fin septembre. Cela après 6 mois d'appui en soins de santé primaire dans cette aire de zone de santé des Kirochi. MSF d'y parler, passer la main au ministère de la Santé, mais la prise en charge des violences sexuelles, elle, se poursuit jusque mi-octobre au moins. Les bénéficiaires de ce projet estiment que sa clôture est précoce vu la vulnérabilité des communautés locales. Le point avec vous, Naomi Mutokie.
Les 20 heures de santé de la zone de Kibwa sont en rupture d'approvisionnement en médicaments depuis qu'elles ne sont plus appuyées par leurs partenaires, dit le médecin chef des zones. Pour lui, l'ONG Première Urgence, par exemple, qui a payé au moins 8 heures de santé, n'accède plus à la zone depuis 2024. Une situation due, selon lui, à l'insécurité et l'inaccessibilité de routes, exacerbée par l'avènement de la rébellion de l'AFC M23 dans la zone. Du coup, la prise en charge de malades, en particulier de personnes vulnérables, pose problème. Docteur Yves Songo lance un SOS.
Aujourd'hui, beaucoup de la population est déplacée Certains commencent à retourner, mais sont démunis de moyens pour payer les soins au niveau des centres de santé. Alors, les responsables des établissements de soins ont difficile aussi d'assurer le fonctionnement des structures en s'approvisionnant en médicaments. Alors, nous lançons un SOS auprès des partenaires pour voir comment arriver à appuyer cette zone de santé.
Les cas de paludisme, de gale et diarrhée sont les plus fréquents dans ces structures sanitaires, dit-il.
Dans la province du Tanganyika, le calme est revenu depuis hier vendredi, cette fois-ci sur le site minier de Moussebe, secteur nord Lukuga, en territoire de Nyuzu. D'après des sources locales, des affrontements ont opposé jeudi des éléments de FRDC appuyés par les Wazalendo locaux à un groupe de personnes qui s'identifient aussi comme des Wazalendo venus, eux, de la province du Maniema. Un bilan définitif n'est jusqu'ici pas encore disponible. Les détails avec Paulin Munanga.
D'après des sources locales à Nyuzu, à la base de ces affrontements armés, une dispute entre des éléments des FRDC appuyés par des Wazalendo de Moussebe et des villages environnants et des personnes qui se réclament des Wazalendo qui sont venus de la province du Maniema. Les mêmes sources locales évoquent la mort d'un jeune garçon lors de ces affrontements. La population locale demande aux autorités de définir clairement la mission et les rôles des Wazalendo. Témoignage d'un habitant de Moussebe. Lorsque je suis arrivé à la maison, la situation était déjà tendue et après quelques heures, nous avons entendu des coups de feu. Un groupe de Wazalendo s'est allié au FRDC pour combattre un autre groupe de Wazalendo. L'attaque a commencé vers 6 heures du matin et le calme est revenu vers 18 heures. C'est l'autre groupe de Wazalendo venu d'ailleurs qui a semé le désordre. Nous demandons aux autorités de définir clairement le rôle des Wazalendo. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur assistant du territoire de Nyuzu confirme que le calme est revenu dans la soirée de ce vendredi. Sabin Sabiti Ngongo précise que les Wazalendo, auteurs de ces troubles, se sont retirés de la carrière de Moussebe. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, les enfants en conflit avec la loi détenus à la prison de Bunia vont désormais dormir dans de meilleures conditions. La MONUSCO a remis vendredi à cet établissement 80 matelas et 192 couvertures. Le directeur de la prison reconnaît que jusque-là, ces mineurs passaient leur nuit dans des conditions vétustes et salue donc cette assistance. Jean-Claude Loki.
Depuis octobre 2023, la prison centrale de Bunia dispose d'un nouveau bâtiment équipé de lits grâce au financement de la MONUSCO. Mais faute de matelas et de couverture, ce pavillon était resté inoccupé. Camille Zondi, directeur de la prison, exprime sa gratitude.
Il y avait quelques matelas, comme il y avait l'état vétuste de ces matelas. Et les autres dormaient sur les planches. Le mieux serait qu'on puisse remplacer ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a un impact positif par rapport à leurs conditions de détention. C'est pour nous donner un peu de bonnes conditions à ces mineurs qui sont en placement. Étant donné que le nouveau quartier doit quand même prendre au moins 60 mineurs, il a fallu qu'on puisse équiper tout le lit avec ses matelas et couvertures pour que les enfants soient quand même à l'aise par rapport à la sienne occupation. Vous savez que les mineurs sont des enfants. Ils sont mis en placement, ils doivent quand même passer bon dodo comme ils sont chez eux à la maison.
C'est la chef adjointe de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, en mission en Ituri, qui a procédé à la remise officielle de ce nouveau pavillon réservé aux mineurs. Pour rappel, la MONUSCO a déjà réalisé plusieurs projets en faveur du personnel et des détenus de la prison centrale de Bunia afin d'améliorer à la fois les conditions de travail et d'incarcération. Bunia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Nous l'avons annoncé en introduction de ce journal, province du Congo central, la nationale numéro 1 sera bloquée pour 2 heures demain dimanche. Les autorités coutumières de ce coin du Congo central veulent comprendre pourquoi tant d'accidents mortels à répétition sur cette voie. C'est pourquoi elles ont décidé de mener des cérémonies coutumières qui seront organisées demain dimanche sur certains endroits de la route cette route d'intérêt national, comme l'a souligné l'administrateur du territoire de Mbanzangungu Willy Makumbani Ndombele. Le récit est ici de Nana Plurich Mambou.
D'après Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu, l'idée derrière l'organisation des cérémonies coutumières sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanzangungu n'est pas venue de lui. C'est plutôt une proposition de la notabilité des chefs coutumiers de Mbanzangungu qui attribue une dimension spirituelle à la multiplication des accidents meurtriers entre les deux montagnes encerclant Mbanzangungu. Dans un communiqué rendu public ce samedi, cette autorité territoriale indique que trois mesures sont prises conformément aux exigences coutumières pour mener à bien cette cérémonie coutumière. C'est notamment la suspension des activités sonores dans toutes les églises situées à proximité de la route nationale de 14h à 16h. La circulation des motards, des véhicules et piétons sur la nationale numéro 1 sera suspendue à partir de l'entrée Melakinsende pour les véhicules en provenance de Kinshasa et au niveau de l'entrée de l'université Nkongo pour ceux en provenance de Matadi. Les tenanciers des bars, bistrots et autres établissements exerçant une activité sonore sont également dans l'obligation d'arrêter la musique et tout instrument sonore pendant ces temps précis. Ces cérémonies se tiendront notamment aux montagnes Kitemoko et Lilombele, où les accidents meurtriers se produisent plusieurs fois. Cette décision a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Les autorités au niveau provincial, qui ne semblent pas être convaincues, sont en train de l'examiner avant de l'approuver, a affirmé Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu. Matadi, Nana Plus Riche Mambu, Radio Okapi.
Nous ne quittons donc pas cette voie car des coupeurs de route sont tombés entre les mains et les filets de la police nationale de la République démocratique du Congo. Trois présumés malfaiteurs ont été arrêtés hier vendredi au village Kimbala, toujours sur la nationale numéro 1. Les suspects déjà connus de la justice ont été interceptés avec en main des cartouches, une moto et une cagoule. Ces présumés bandits auraient aussi bloqué plusieurs véhicules sur cette route d'intérêt national à hauteur de Mont Mangala, en secteur de Lufu, où ils ont ravi des sacs contenant de l'argent et plusieurs biens de valeur. Ces trois individus ont été remis à la police criminelle pour des enquêtes. De l'ouest de la RDC, nous allons à présent à l'est, précisément à Ituri, où on nous signale qu'un militaire de FARDC a ouvert le feu sur un conducteur de taxi-moto, le blessant grièvement. L'incident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Chomia, localité située à environ 60 km de Bounia. Selon de sources locales, la victime aurait refusé d'obéir à l'injonction du militaire de s'arrêter car il pensait avoir affaire à un assaillant qui cherchait à lui arracher sa moto. Le soldat en cause a été arrêté par ses compagnons d'armes. Quant au conducteur blessé, il a été transporté dans une structure médicale pour des soins appropriés. Puisque nous parlons des engins roulants et évoquons aussi ce qui peut être perçu comme une certaine avancée routière à Kisangani dans la province de la Tchopo, la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière a clôturé vendredi le recyclage pour la première vague d'au moins 500 conducteurs de moto-taxi. Ces derniers ont reçu de brevets et de participation symbole d'acquisition des matières relatives au code routier. Reportage de Jacques Moukonkolé.
L'organisation de cette session était nécessaire car la plupart des accidents survenant sur la voie publique sont dus à l'ignorance du code routier. Afin d'atteindre la majorité de leurs cibles, les instructeurs ont utilisé le Lingala, comme l'explique Jasmin Yafunga Lokomba, directeur provincial de la CNPR.
Ça nous a permis normalement d'atteindre les concernés en faisant tout ce qui était essentiel pour qu'ils soient satisfaits. En majorité, vous pouvez même checker certains parmi eux, ils vous diront qu'ils sont sortis avec une matière bien appropriée qui cadre la formation des codes de la route.
Les 500 participants à cette première vague ont reçu chacun une carte à intégrer désormais dans l'ensemble des documents exigés par les éléments de la police de circulation routière. Ils se disent satisfaits de la formation reçue.
En tout cas, je suis ravi d'avoir passé cette formation. J'ai appris à lire les signaux routiers et à bien me comporter sur la route.
Je suis content d'avoir suivi la formation. On nous a conseillé de ne pas boire pendant nos activités. On ne doit pas exagérer des vitesses et on doit être prudent sur la route.
La deuxième vague sera reçue à partir de la semaine prochaine. La durée prévue pour cette campagne de recyclage est de 3 mois. Ensuite, interviendra le contrôle des documents sur la voie publique par la PCR. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Guinée-Bissau se prépare aux élections législatives et présidentielles fixées au 23 novembre. Jeudi dernier, la Cour suprême a rejeté, sans l'analyser, la candidature du parti d'opposition PAIGC. Ce dernier se présentait sous la forme d'une coalition, le PAI, Terra Ranka, avec 5 autres partis. Cette alliance était un problème aux yeux des juges ainsi qu'au dépôt de candidature hors délai légaux. Le gouvernement lui dit se tenir à l'écart alors que le parti concerné a déposé un recours.
L'invité
de ce journal, c'est Raphaël Mushanga, coordonnateur national de l'ONG des Congo Action et point focal de l'ONG Congo Bassin Conservation Society, une structure qui vient de doter la province du Maniema d'une stratégie provinciale sur l'agroécologie. Raphaël Mushanga au micro de Florence Kiza.
Monsieur Raphaël Mushanga Kaloumé, bonjour.
Bonjour, madame.
CBCS, vous dotez aujourd'hui la province du Maniema de sa propre stratégie provinciale sur l'agroécologie. C'est quoi son importance?
L'importance de cette stratégie vient relever les défis environnementaux, les défis socio-économiques, culturels, institutionnels. Cette stratégie représente et vient concilier la sécurité alimentaire, la résilience climatique et la préservation des ressources naturelles d'une province riche en potentialités, mais soumise à de fortes pressions humaines et environnementales. Donc, la province du Maniema, nous avions constaté qu'il y a de fortes pressions anthropiques vis-à-vis de nos forêts.
Alors, qu'est-ce qui est contenu dans la dite stratégie?
Le contenu dans cette stratégie, il y a 4 axes prioritaires. La transition productive et durable. Là-bas, nous voulons faire une promotion de l'agroforesterie, de cultures associées à l'élevage, de diffusion des pratiques de conservation des sols et de l'eau comme premier axe. Le deuxième axe vient renforcer des capacités des savoirs locaux, c'est-à-dire quoi? La capitalisation des savoirs endogènes et les innovations paysannes. Et le troisième axe repose sur la gouvernance et cadre institutionnel, c'est-à-dire l'intégration de l'agroécologie dans les politiques agricoles provinciales, nationales. Autrement, nous allons faire dans cette stratégie le renforcement des organisations paysannes, coopératives, les organisations féminines, les organisations de jeunes et des paysans. Et en dernier lieu, cette stratégie a comme quatrième axe l'économie du marché, c'est-à-dire faire la promotion des consommations responsables et les circuits courts dans les ménages paysans.
Adopter une stratégie, c'est bon, mais quels sont les mécanismes de suivi que vous avez mis en place pour l'effectivité de cette stratégie provinciale?
Nous avions prévu plusieurs mécanismes, entre autres les suivis continus. Ici, il s'agit de faire les activités, vérifier les indicateurs de performance. Ce mécanisme vise aussi à détecter les dysfonctionnements de la stratégie, où est-ce que le problème se pose. Nous allons faire chaque fois des évaluations périodiques, c'est-à-dire vérifier à mi-parcours qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Nous aurons des revues participatives, c'est-à-dire impliquer toutes les parties prenantes locales afin de vérifier ensemble les résultats. Là, dans les mécanismes de suivi, nous avions prévu plusieurs outils de suivi, tels que les cadres logiques. Dans les cadres logiques, cela nous permettra à définir les objectifs, les indicateurs, les sources, les vérifications sur les hypothèses. Et nous aurons les outils tels que les dashboards. Dans les dashboards, nous aurons un tableau ou instrument de visualisation pour vérifier qu'est-ce que nous avons fait, quand, où et comment ça a été fait. Et s'il y a les imperfections, comment nous pouvons améliorer toutes ces imperfections. Et nous pouvons faire même les enquêtes, les sondages, les systèmes numériques. Plusieurs outils ont été consacrés pour un bon suivi et évaluation.
CBCS, après avoir doté le gouvernement provincial de cette stratégie, nous osons croire que vous resterez toujours aux côtés du gouvernement provincial pour l'accompagner dans la mise en œuvre.
C'est ce que nous avions opté parce que nous aurons un task force que nous allons installer après avoir validé cette stratégie. Nous aurons un comité de pilotage au travers lequel CBCS restera toujours aux côtés du gouvernement en tant que conseiller et en tant qu'accompagnateur. accompagnateurs pour faire des plaidoyers au niveau national et au niveau international afin que qu'il y ait l'effectivité de cette stratégie provinciale sur l'agroécologie.
Et si une fois cette stratégie est mise en place telle que déterminée dans votre document, ça peut apporter quel changement dans les systèmes agroécologiques de la province?
Comme vous le savez, madame, nous voulons que les paysans adoptent des pratiques qui sont adaptées pour préserver l'environnement et valoriser la sécurité alimentaire au niveau des communautés locales et au niveau du peuple autochtone. Bref, la stratégie provinciale est une feuille de route au travers laquelle la province doit s'inspirer pour valoriser l'agriculture durable et les paysans, les peuples autochtones, la population, les jeunes et les parties prenantes doivent s'inspirer pour une bonne pratique agricole.
Monsieur Raphaël Mutianga Kalume, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, madame.